Vous écoutez Call Room, le podcast incontournable pour les passionnés de course à pied. Imaginé et créé par Renix. Que vous soyez un débutant ou un coureur chevronné, ce podcast est là pour vous guider. Alors, attachez vos lacets et préparez-vous à courir avec nous dans ce monde merveilleux de la course à pied.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Call Room en partenariat avec Compressport. On est à côté de Genève aujourd'hui et on est accueilli par un trailer bien connu dans le paysage français. Il a déjà remporté l'UTMB et la Diagonale des Fous. Il s'agit évidemment de Ludovic Pommeret. Salut Ludovic, comment tu vas ?
Salut, bah jusque-là tout va bien, merci.
Alors déjà, merci pour ta disponibilité et de nous accueillir donc chez toi. Pour commencer, on a l'habitude de faire une rapide présentation de l'athlète qui est sur notre podcast. Donc pour ta part, tu as 48 ans, tu es athlète donc Compressport, tu as remporté l'UTMB en 2016, tu as terminé 5e l'an dernier et tu as gagné la Diagonale des Fous en 2021. C'est bien ça ?
Ça doit être ça, les dates, ouais. Ça,
à peu près.
2016, je suis sûr, la Diag, oui, ça doit être ça aussi.
Alors, durant ce podcast, on va évidemment s'intéresser à ta carrière, tes performances, les résultats que tu as pu avoir donc, sur l'UTMB, la Diagonale des Fous notamment. Mais on va également s'intéresser donc, à ton sponsor Compressport. Tu pourras nous éclairer un petit peu sur les différents produits et ce qu'ils apportent donc, dans ta pratique. Et enfin, on va s'intéresser à tes entraînements, en savoir davantage sur comment tu prépares une compétition, comment tu prépares un ultra-trail, et donc donner quelques conseils à nos auditeurs. C'est tout bon pour toi ?
Ok, ça me paraît bien, surtout que je viens de perdre un an, donc c'est cool, j'ai rajeuni.
49 ans ?
49.
J'étais gentil. Alors déjà, pour commencer, comment se passe ta préparation ? Si je dis pas de bêtises, donc tu vas t'engager sur un ultra-trail en Argentine dans moins d'un mois, c'est ça ?
C'est ça, ouais, ça fait partie de la préparation. Voilà, je voulais faire une course en avril, donc j'ai couru la semaine dernière sur Trail de Sainte-Victoire, et puis en mai, pour me préparer principalement pour les objectifs de l'été, qui sont l'Hard Rock, où j'ai enfin pu avoir un dossard. Et l'UTMB, retour sur l'UTMB, alors oui, j'ai déjà couru l'année dernière, c'est pas la première fois, mais voilà, retour sur l'UTMB, parce que l'année dernière, c'était les 20 ans de l'UTMB, donc j'ai participé, et cette année, c'est mes 20 ans de la première participation à l'UTMB en 2004. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil, sans pression, je vais y retourner encore une fois. Quoi.
C'est ton gros objectif de l'année, ou plutôt l'Hard Rock ?
Bah, plutôt essayer d'être assez performant sur l'Hard Rock et l'UTMB, bah, on verra l'enchaînement. Maintenant, c'est assez espacé quand même. Mais ouais, et envie de faire, en tout cas, de ne pas avoir de regrets sur l'Hard Rock. Et ce sera quand même une course ouais, avec pas mal de challenges, avec François, Zach, Diego, Jason. Il y en a quelques-uns qui... Voilà.
Il y a du beau monde en tout cas.
Ouais.
Je disais, tu as déjà remporté l'UTMB, donc c'était en 2016. Tu as remporté la TDS également en 2022. J'imagine, de très beaux souvenirs pour toi.
Oui, bah, l'UTMB, c'est évidemment un des plus beaux souvenirs trail, notamment à cause du déroulé de la course, donc, qui est assez inattendu. Et voilà, la TDS, oui, c'était sympa aussi. Mais c'est vrai que la Diag reste, on va dire, un petit peu devant la TDS et un peu derrière l'UTMB.
Et ouais, tu l'as remporté, ça, c'était en 2021. Et pour la petite histoire, tu as terminé ex aequo avec un Italien, c'était ça ?
C'est ça, avec un Italien, mais oui, Daniel Jung, qui parle aussi un petit peu allemand. Mais et oui, donc ex aequo, donc au final, ouais, ça peut être aussi une deuxième place, parce qu'au final, j'ai fait pratiquement que de deuxième place à la Diag, donc voilà. Mais non, c'était une bonne expérience, enfin une bonne course. Et puis voilà, c'est toujours des moments particuliers quand même à la Diag, parce que bah, toute l'île est à fond en fait sur cette course. Donc c'est vrai que c'est aussi un de mes meilleurs souvenirs, et puis de mes débuts en ultra trail en 2009 quand j'ai participé la première fois. Voilà, de découvrir, quand on découvre les paysages et voilà, quand on découvre l'ambiance. Enfin, c'est vrai qu'il y a une grosse ambiance aussi sur l'UTMB, principalement sur le départ et l'arrivée. C'est pareil sur la Diag, mais il y a aussi pas mal sur le parcours. Et puis sur un départ de Diag, voilà, c'est du TMB, mais sur 4-5 km, quoi. C'est voilà.
Donc un beau monde et beaucoup de bruit.
Ouais, c'est ça. Ouais, et puis des odeurs un petit peu spéciales aussi. Enfin, voilà, il y a un petit peu de tout, c'est un peu varié.
Alors justement, la Diagonale, tu as terminé 3 fois deuxième, si je dis pas de bêtises, et tu l'as remporté au bout de la 5e fois.
C'est ça. Ouais, ça doit même être 4, je crois 4 fois 2.
Donc, c'était vraiment un soulagement quand tu la remportes.
Oui, enfin, un soulagement. Voilà, après, c'est une victoire ex aequo, donc pour certains, c'est pas une vraie victoire. Mais oui, je suis content quand même de l'avoir inscrite au palmarès. Et, voilà, pour les raisons que j'ai évoquées aussi avant, c'est, ouais, c'est l'ambiance et puis c'est multiples fois. Alors du coup, je ne sais plus si c'est 3 ou 4, mais d'être poulie d'or.
Ouais. Ouais. Voilà. et justement, sur cette course-là, donc en 2021, au final, comment vous êtes mis, est-ce que vous êtes mis d'accord sur le fait que sur les derniers kilomètres, vous vous êtes dit, bon, on est encore ensemble, on termine ensemble, ou comment ça s'est fait?
En fait, Daniel a toujours l'idée, en fait, la course, en fait, il a toujours été devant. Et puis, moi, je l'ai rattrapé Marla, ouais. Non, Roche-Plate. Sur la montée, en fait, en descendant de Roche-Plate, je l'ai rattrapé. Et puis, ouais, il me disait qu'il avançait plus, enfin, voilà, qu'il n'arrivait plus à descendre. Et voilà, on a échangé. Moi, je le connaissais un petit peu. On avait fait déjà quelques courses ensemble. Donc, on a échangé quelques mots. Et puis après, je suis parti, quoi. Et puis, bon, je ne pensais pas le revoir, hein, non, honnêtement. Et puis, au bout d'un moment, bah, je pense que, ouais, il s'est accroché et il est revenu. Et puis, voilà, on est resté ensemble. Bon, au début, sans forcément, en échangeant juste quelques mots. Et puis après, aussi en parlant, il y avait Daniel Baumann sur la course, qui était un peu connu pour être finisher. Alors voilà, les informations qu'on a de course sur la Diag sont parfois un petit peu erronées. On nous disait qu'il rentrait, voilà, alors qu'il était sous une couverture de survie, je crois. Mais bon, bref. Non, c'était un petit peu. Enfin, jusqu'à ce qu'on passe vraiment pas mal d'heures ensemble, c'était pas vraiment voulu, sans qu'il y ait vraiment d'attaque. C'est chacun faisait voilà, gérer. Parfois j'étais devant, parfois il était devant. On gérait la course. Et voilà, quand on a passé beaucoup de temps ensemble, c'est vrai qu'on en a parlé au final. Et puis on s'est dit, bah, si tout va bien, que personne n'a un coup de mou, ben voilà, on terminera ensemble. On se mettra pas un sprint en tout cas sur à l'entrée du stade. Voilà. Après. Je peux comprendre les deux façons de voir pour un coureur, de vouloir se départager. Ça reste une course, ça reste une compétition. Et aussi, moi, je comprends la façon de terminer ensemble et de partager un moment ensemble. Voilà.
Bah, au final, c'est une belle histoire aussi.
Oui, c'est une belle histoire. On a mis longtemps à s'encourager en fait, tous les deux pour pas que ça revienne plutôt de derrière. Ouais. Et puis voilà, après, pas forcément l'envie de se départager. Voilà, pourquoi maintenant ça sera plus possible sur la Diag en tout cas. Dans les autres courses, je pense, enfin l'UTMB, je pense pas non plus. Là, il y aura forcément, même si les deux coureurs arrivent ensemble, ça sera départagé quoi, par la course.
Et peut-être, est-ce qu'aujourd'hui vous avez gardé un certain lien tous les deux ou pas spécialement après ce moment?
Juste un petit peu après, oui, enfin plus pas mal d'échanges, voilà, plutôt par les réseaux ou par message. Maintenant un petit peu moins, c'est vrai que on suit sur les réseaux, mais je le vois pas fréquemment non.
Et donc tu me disais pour toi ton plus beau souvenir en tout cas jusque là, c'est plutôt la Diagonale que l'UTMB donc.
Bah non, l'UTMB en 2016, ça reste le plus beau souvenir, puis la plus grande émotion en fait sur la ligne d'arrivée quoi, par rapport au déroulé de la course, voilà, faire aussi la fin avec ma fille. Donc oui, c'est sûr, c'est le plus riche en émotions, mais ma première grosse émotion et puis ma première découverte vraiment l'ultra trail, c'était en 2009 sur cette Diag aussi. Donc voilà, c'est pour ça que ça reste assez particulier.
Et justement, pour la petite anecdote, les deux fois donc, où tu passes la ligne en premier donc à Chamonix, donc que ce soit pour la TDS ou pour l'UTMB, on t'a transmis un petit cadeau juste avant la ligne d'arrivée pour que tu passes la ligne d'arrivée avec cet objet. Tu peux nous en dire un peu plus?
Alors, avec la TDS, oui. Sur l'UTMB, non, je ne crois pas.
Ah, c'était pas... Non. Pardon, parce qu'effectivement, sur la TDS, en tout cas, on te l'a, ouais, on te l'a transmis 100 mètres avant, c'était un peu la surprise.
Sur la TDS, juste à l'entrée, oui, il y avait l'équipe d'Oka qui était là sur le bord avec une bouteille à la main. Donc, pas prévu, puis pas prévu que je gagne non plus. Donc, donc c'était sympa. Et puis,
un beau
clin d'œil. Et puis... ouais, il y avait aussi pas mal d'émotions de mon côté en fait pour différentes raisons. Donc voilà, c'était pas forcément une émotion par rapport au déroulé de la course, mais plus pour des raisons personnelles. Et ouais, donc du coup, ça reste aussi une course bah, ouais, qui a été riche en émotions et franchir la ligne. Bah, Cham, voilà, dans l'ambiance de Cham, ça reste forcément un bon souvenir. Et aussi un petit peu des raisons pour lesquelles on continue à courir sur les ultras, c'est en plus de la fatigue, de pousser un petit peu son corps, je pense que ça décuple les émotions avec la fatigue aussi. Et voilà, c'est pour ressentir encore un petit peu ça. Essayer en tout cas de ressentir ça, même si on ressent ça même pas forcément quand on est toujours en première position, mais à différentes positions de la course. Donc c'est un petit peu pour ça aussi que je continue, quoi.
Et là, pareil, l'année dernière, 5e à l'UTMB, la dernière ligne droite, pareil, avec un monde de fou, une ambiance dingue, ça fait toujours plaisir.
Oui, oui, bah, c'est sûr que c'est vraiment une grosse ambiance. Et puis, voilà, comme je dis, c'est vrai qu'arriver 5e, bah, voilà, c'est pas un podium, c'est pas une victoire, mais on a aussi quand même la fatigue qui est accumulée, donc c'est quand même une délivrance et ça reste quand même toujours un moment d'émotion. Et c'est quelque chose qu'on peut voir aussi si on reste un petit peu sur la ligne ou qu'on revient même un jour plus tard, voir les coureurs qui passent encore la ligne. Mmh. Voilà, c'est encore quand même pas mal chargé en émotion avec la famille. Et donc chacun retrouve un petit peu ça, quelle que soit sa position.
Et est-ce que tu as peut-être une anecdote ou quelque chose à nous raconter sur une de ces courses, que ce soit l'UTMB ou même peut-être la Diagonale des Fous, un moment qui t'a marqué ou quelque chose comme ça?
Ouais, bah, après il y en a plein, enfin moi j'ai plein de souvenirs en fait qui me restent un petit peu dans la tête. Bah, quand je parlais de ma première Diag, on est parti à minuit du sud, c'était Saint-Philippe sous des trombes d'eau, et puis on arrive au volcan en fait au lever du soleil et il fait grand beau, donc là c'est des moments qui, surtout quand on découvre l'île, c'est des moments assez intenses. Mais pareil, en fait, sur l'UTMB, où on a le coucher du soleil quand on était Col de la Forcla, quand on parlait, on partait un peu plus tard. Col de Vosa, pardon. Donc, voilà, il y a plein d'images comme ça qui restent. Après, j'en ai pas là une en particulier, quoi. Même l'année dernière, en fait, sur l'Hard Rock, avec Aurélien, quand j'étais pêcheur, voilà, il y a eu des moments qui restent, quoi, c'est sûr, quoi.
Et justement, en parlant un peu UTMB, on va dire un sujet qui a un petit peu fait parler, en tout cas en début d'année, tu vois très bien où je veux en venir. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu de ce qui s'est un petit peu passé, sur ce qui a pu se dire sur UTMB, etc.
C'est vrai que ça en fait beaucoup parler, et au final, je me rends compte que ça en fait presque plus parler pour les gens qui connaissent très peu en fait, le milieu du trail. Il y a beaucoup de gens qui m'en parlent en fait parce qu'ils sont, voilà, ils connaissent le nom du trail, ils connaissent Kylian Jornet et ils ont entendu parler de cette polémique. Sinon en interne en fait, en interne, quand je dis en interne, c'est plus pour vraiment pour les fans, pour les coureurs, je pense que ça a un petit peu moins fait de bruit. Voilà, pour mon point de vue, chacun a ses avis dessus. On peut ne pas être d'accord avec la politique prise par l'UTMB, l'UTMB Group notamment, avec le circuit qualificatif qui est obligatoire pour venir sur une course de l'UTMB, des finales. On peut être aussi contre certains aspects sportifs, notamment de suivi, plus ou moins de l'abandon du projet Quartz sur l'UTMB. Donc voilà, on peut être contre ça. Maintenant, il y a plein d'autres courses, donc je pense pas que c'est vraiment, enfin en tout cas, c'était pas directement un appel au boycott. Il y a plein d'autres courses qui existent. Si on n'est pas d'accord avec ça, eh ben voilà, on peut aller voir ailleurs. Il y a plein de belles courses aussi. Il y en a dans les Pyrénées, même en France. Il y en a dans les Pyrénées. Il y en a aussi dans les Alpes d'autres qui sont sympas. Voilà, mais je pense que appeler à un boycott pour interdire en fait à quelqu'un de vivre ce qu'ils ont pu vivre, parce que en tout cas Kylian l'a vécu, ça en est servi aussi pour faire de la promotion, enfin voilà, pour ça lui a beaucoup servi, donc il va pas forcément cracher dans la soupe. Zach pareil, je pense que c'est difficile de dire à quelqu'un qui rêve de connaître ça, justement de connaître ses émotions, et malgré tout quand même cette reconnaissance, parce que ça reste quand même la course où derrière il y a quand même beaucoup de reconnaissance. Enfin, c'est un peu la course quand même qui est mondialement connue. Enfin, quand on parle d'une course de trail, c'est l'UTMB qui va être connu, quoi. Voilà.
Bah, c'est sûr que à ce niveau-là, l'UTMB a quand même un, au niveau des yeux de chacun, même de ceux qui s'intéressent peu au sport, l'UTMB est quand même à une grande place et c'est vrai que c'est très connu à ce niveau-là.
Oui. Et puis, bon, voilà, ça a participé quand même au développement du trail. Maintenant, peut-être qu'avec les orientations, c'est un peu moins le cas, voire le contraire. Mmh. Voilà, bah, c'est une orientation qui a été prise et chacun se fait son opinion dessus et voilà, on peut toujours aller voir ailleurs si ça ne convient pas.
Il y a plein de belles choses, que ce soit même en France et à l'étranger, c'est sûr. Toi, donc, aujourd'hui, je disais 48, donc 49 ans aujourd'hui. Comme dit l'année dernière, 5e de l'UTMB. Comment tu expliques cette longévité que tu as et toujours cette passion que tu as pour ce trail?
Alors déjà, moi, j'ai commencé tard. Je ne suis pas un coureur à la base. Je crois que ma foulée parle d'elle-même. Non, je n'ai pas appris à courir. Voilà, je suis venu un petit peu par défi, par mes beaux-frères, tout ça, par une course qui se faisait vers chez moi, donc un petit peu par hasard, on va dire. J'ai pas forcément eu beaucoup de saturation, en fait. Ça fait depuis mes 25 ans, donc ça fait à peine 25 ans. Donc, c'est vrai que ça peut paraître beaucoup quand même quand on y pense un peu.
C'est pas mal.
Maintenant, comme je disais, c'est ces émotions, en fait, de continuer à avoir ces émotions. Enfin, il y a des. C'est la peur, en fait, d'arrêter et puis qu'il y a des choses, en fait, qui manquent, justement, qu'on retrouve, en fait, que sur les courses et encore plus sur les courses ultra, qu'on peut retrouver. Enfin, voilà. Enfin, c'est aussi un petit peu. Je m'accroche peut-être un petit peu, en fait, aux belles années que j'ai vécues par rapport à ça. Ça peut être aussi les années en équipe de France. Enfin, c'était différent d'un ultra, mais c'est des souvenirs qui sont quand même sympas. Et voilà, il y a encore des courses que cette année je fais l'Hard Rock. Voilà, peut-être après il y aura encore d'autres courses, mais voilà, il y a encore des courses qui me font rêver et qui m'aident à essayer de me maintenir à peu près à niveau. Enfin, à niveau, ça dépend, c'est relatif.
Et justement, ce que ça vient un peu sur ma seconde question, est-ce que tu as encore justement des objectifs, des courses que tu aurais envie de faire avant d'arrêter le trail ou de faire peut-être quelque chose d'autre que du trail? Enfin, est-ce que t'as d'autres objectifs?
Ouais, ce que j'aime bien dans les courses, c'est aussi aller sur les courses et aller découvrir un petit peu le pays. Quand c'est des courses un petit peu loin, découvrir la France, j'en ai encore plein à découvrir aussi. Hein. Quand on va sur des courses, je vais aller en Argentine, je peux pas partir très longtemps, on va pouvoir partir que 2 semaines, mais voilà, c'est allier un petit peu la course, les vacances, la découverte. Donc ça, c'est sympa. C'est aussi ce que j'ai envie de continuer et peut-être un petit peu étendre quand j'aurai un peu plus de temps. Peut-être un autre aspect dans les courses à étapes qui est une gestion un petit peu différente et qui permet peut-être de voir un peu plus de sentiers sur un...
Type un marathon du sable ou quelque chose comme ça?
Alors, marathon du sable, oui, c'est aussi quelque chose pas complètement fermé, jamais fait. C'est une autre expérience, ouais. C'est encore une appréhension un petit peu différente parce qu'il y a la notion d'autonomie, de gestion de sa nutrition et de ses apports caloriques sur plusieurs jours. Dans celle-là, il n'y a pas de gestion de sommeil. Hein. Là, on peut encore dormir. Normalement, on peut encore dormir bien la nuit. Mais il reste
quelque chose que tu n'as pas encore
fait. Quelques courses à découvrir, quelques expériences à découvrir. Après, on parle aussi d'aller sur plus long. François, cette année, va sur le Thor, hein, si je ne me trompe pas. Je pense que ça viendra aussi. Je ne voulais juste pas le faire trop tôt par rapport à certaines connaissances qui ne s'en sont jamais vraiment remis. Et là, après, il y a une autre dimension qui rentre en jeu, c'est vraiment la gestion du sommeil. Donc, j'aime bien faire mes nuits quand même. Quoi.
on va suivre un petit peu tout ça. Je disais tout à l'heure qu'on va s'intéresser à ton sponsor Compressport. Mais avant ça, on va juste faire une toute petite page de pub et on revient donc dans quelques petits instants.
Découvrez les ProMarathon Sox V2.0 de Compressport. Chaussettes de course conçues pour un confort, une protection et des performances optimales. Que vous soyez coureur, loisir ou élite, limitez les frottements et les ampoules sur vos sorties. Les fibres PTFE intégrées et la technologie antidérapante offrent le confort, la stabilité et les performances dont vous avez besoin pour tenir la distance. Alors, n'hésitez plus et achetez votre paire sur compressport.com.
On est de retour et donc toujours à mes côtés, Ludovic Pommeret. Je disais qu'on va s'intéresser à Compressport. Ça fait maintenant longtemps que tu cours avec des produits Compressport. Quelques temps que la marque te fait confiance, c'est ça?
Compressport? Je connais pas. J'ai jamais entendu parler. Donc. donc Compressport, c'est un partenaire, ça fait vraiment longtemps, je crois, depuis la création de la marque. On parlait tout à l'heure de ma première DEAG en 2009. J'avais les quads, j'avais les manchons. Ouais, j'avais déjà pas mal. Enfin, ce que faisait Compressport à l'époque. Donc ça fait un moment en même temps qu'au cas en fait que je suis chez Compressport et j'utilise maintenant toujours. Alors plus les quads maintenant. Je sais plus trop pour quelle raison, mais voilà. Mais en tout cas, toujours les manchons ou plutôt les full socks, la Freebell Pro et puis le sac Compressport. Donc ouais, un partenaire historique, on va dire.
ça fait plaisir de voir une marque qui te suit et qui te fait confiance depuis autant d'années maintenant.
Oui, c'est ce qui est intéressant aussi quand on a une marque jeune, en fait, qu'on démarre avec la marque, on évolue aussi avec la marque. Donc, c'est intéressant de savoir que modestement, on a participé aussi à l'évolution de la marque. Donc, c'est des challenges qui sont sympas aussi, d'une autre dimension, moins sportive, disons, mais, mais ouais, qui sont bien aussi.
Bah, depuis le début, j'imagine, tu peux donner un peu ton retour sur les produits pour aider à faire évoluer un petit peu la marque aussi.
Oui, on peut faire des retours. Moi, je fais des retours en test. Je suis pas vraiment un créatif, donc c'est pas moi qui va être donner les innovations. Je peux te dire par contre si ça me convient ou si ça me convient pas. Après, je suis pas full Compressport, donc je suis pas 100% Compressport comme peut être Aurélien Indigo, d'autres coureurs. Donc, même si je suis quand même impliqué, notamment cette année, on a fait pendant le camp. Quelques workshops avec le team. Quoi.
Et justement, sur donc Compressport, qui est une marque donc de compression, comme le dit son nom, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, au quotidien, dans ton entraînement, sur tes trails, le côté compression?
Alors, le côté compression, en fait, je ne sais pas si c'est vraiment le côté compression qui me sert, en fait. C'est vrai que j'aime bien porter les full socks. J'aime bien avoir un petit peu plus le côté en fait maintien musculaire. Côté compression, ça faudrait demander à Sylvain. Non, le retour que ça peut avoir maintenant, ouais, c'est plus moi le confort que je peux avoir dans les différents accessoires, chaussettes, c'est plus qu'un accessoire quand même, de Compressport, quoi. Donc voilà, c'est d'avoir Comme Oka, en fait, Compressport a aussi toujours mis l'accent sur des produits qui sont légers, performants, essayer de trouver quelque chose qui convienne au coureur lambda, mais aussi en fait au coureur qui va aller chercher de la performance, quoi.
Et tu me parles de chaussettes, des fois ça peut être négligé par certains coureurs, mais c'est tellement important, notamment sur de la si longue distance. Pour éviter justement les ampoules et tout ce genre de choses.
Ouais, c'est vrai que la chaussette, elle peut faire la différence. Il y a encore pas si longtemps que ça, j'étais vraiment sur des chaussettes qui étaient plutôt minimalistes, assez fines en fait. On a pas mal de choix en fait dans la gamme Compressport. Maintenant, je suis un peu plus, je pense que c'est la vieillesse, je suis un peu plus sur le confort d'être. Aussi, en fait, peut-être aussi un peu par rapport à mon orientation, où avant je faisais un peu plus toutes les distances, maintenant je fais un peu plus du long quand même que des courses courtes. Donc c'est vrai que même si ça dure, si c'est moins impactant, en fait, les impacts sont moins forts sur l'ultra, ils sont quand même plus nombreux, plus répétés. C'est vrai qu'on est content d'avoir quelque chose qui nous offre un peu de confort, quoi.
Et tu me parlais de la Freebelt ou du sac de Compressport. Ça aussi, c'est tu sens justement au niveau innovation de la marque, d'avoir un produit qui est léger, confortable, qui sans irritation et tout ça.
Oui, bah, la Freebelt, pour moi, c'est ce qui est bien, bah, c'est justement l'accessibilité, en fait. Ça peut être aussi, ça peut avoir un deuxième aspect bien, en fait, quand il fait froid aussi, de protéger un petit peu des parties sensibles. Enfin, on la porte assez haut quand même, hein, quand je parle de parties sensibles. Oui. ouais, d'être accessible, ça sert aussi de porte-dossard. Pendant un moment, je portais mes bâtons dessus, donc il y a plusieurs... voilà, ça permet de répartir un petit peu aussi la charge. Et ouais, j'aime bien surtout, en fait, sur l'Ultra, bah, voilà, pouvoir compartimenter un petit peu ce que j'ai sur moi et savoir où tout se trouve. Donc le combo, en fait, ceinture plus sac. Voilà, je sais qu'à gauche, dans le sac, je vais avoir mon pantalon parce qu'il y a deux poches, je sais pas comment on appelle, enfin opposées comme ça, qui se rejoignent pas. Où je sais que je vais mettre mon pantalon à gauche, ma veste à droite. Voilà, je vais avoir mon alimentation sur le devant. La plupart du temps, les déchets sont la ceinture, plus voilà, une partie, certains d'aliments en fait spécifiques que je sais que je mets que dans la ceinture. Voilà. Donc ça permet plutôt de compartimenter et puis de ne pas mettre 3 heures à chercher ce qu'on veut, quoi.
Oui, parce que justement, sur un ultra trail, il y a quand même beaucoup de choses à emmener, que ce soit aussi la couverture de survie. Enfin, il y a quand même pas mal de choses obligatoires à avoir sur soi sur un départ d'un ultra. Donc ça permet d'avoir vraiment de tout pour en mettre dedans et sans que ce soit trop, on va dire, tout dans une seule poche et que justement tu n'arrives plus à retrouver.
Ouais, exactement. Et puis aussi. Aussi, en fait, il y a des contrôles faits sur la course, notamment UTMB, où ils vont nous dire, voilà, un contrôle, on a besoin de ça. Et bon, c'est bien de savoir où... bon, on n'est pas à la seconde près, mais bon, quand on perd juste 30 secondes, une minute, bah, c'est dur à reprendre sur une course. Donc, on essaie d'optimiser un peu tout ça, quoi.
C'est sûr. Donc, je disais, tu donnais aussi un petit peu après ton avis un petit peu là-dessus. Il y a la récupération aussi par rapport à ces produits-là, que, surtout les chaussettes avec un bon maintien musculaire, ça te permet de bien récupérer, j'imagine aussi.
Oui, bah, je pense que là, par contre, autant en course, je ne sais pas si ça a vraiment été le retour veineux, la récupération a vraiment été prouvée. Je pense qu'après course, en tout cas, ça a des bons effets. Donc, ce soit en fait avec voilà, soit des full socks de récup ou voir les full legs en fait qui existent aussi. Donc, oui, c'est un moment. Enfin, pour moi, je trouve que c'est quand même assez agréable à porter après, passer un petit moment quand on a l'occasion, les jambes en l'air avec aussi. Donc, oui, ça aide un petit peu à la récupération.
Et c'est là aussi, c'est quelque chose de léger et tu le sens pas, on va dire, mais par contre, ouais, tu sens le bénéfice.
Ouais, on sent le bénéfice et c'est aussi quelque chose que j'utilise quand j'ai des trajets assez longs en avion. Voilà, j'ai toujours principalement, en fait, c'est quand même le produit principal que j'utilise, des full socks qui permet de voilà, limiter un petit peu ou d'améliorer en tout cas la circulation lors des longs voyages, quoi.
Alors justement, donc en parlant récupération, on va passer sur cette troisième partie où on va plus s'intéresser à ton entraînement, à ce que tu mets en place, notamment aussi pour la récupération et ce genre de choses. Et en niveau récupération, outre donc ces chaussettes de récupération, qu'est-ce que tu mets en place pour récupérer? Est-ce que tu vas voir un kiné? Est-ce que tu mets des bottes de presso? Qu'est-ce que tu fais au final?
Alors, ça fait à peu près un an que j'ai eu en cadeau de ma femme de la presso, en fait.
D'accord.
Des bottes. Ouais, c'est ça, j'aime bien aussi, c'est un assez bon moment, surtout quand ça se dégonfle, en fait. ouais, j'aime bien ça. Ça fait presque 2 ans maintenant que je vois ma kiné régulièrement, pas qu'en récupération, mais aussi en préventif. Elle a aussi à traiter un petit peu tout le temps mes tendinites récurrentes que j'ai depuis quelques années maintenant. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en place il y a à peu près 2 ans Et il y a pas mal de bénéfices, déjà, pas forcément encore récupération, mais aussi, en fait, comme je dis, en prévention, de faire un petit check et puis de prendre au plus tôt, en fait, les petites, voilà, les petits blocages, les petites douleurs qu'il peut, avoir, qu'il peut y avoir, que ce soit au niveau musculaire, articulaire. Donc ça, je vois quand même pas mal la différence d'avoir mis ça en place. Et oui, sur la récup, même si des fois c'est un peu douloureux, c'est bien aussi, ouais.
J'imagine que justement, quand au niveau trail, surtout avec tous les parcours que tu fais, qui sont clairement avec des trous, enfin voilà, ça peut facilement donner des petits décalages au niveau du bassin aussi, donc ça permet de faire un petit checking de tout ça.
Ouais. Après, elle reste maquillée Manu, hein, je fais un petit clin d'œil, mais elle reste kiné, pas ostéo. C'est vrai que ça remplace pas après un ostéo, et je vais peut-être pas assez souvent quand même à l'ostéo pour mettre en place. Là, faudrait que je le fasse justement à la transition, en fait, entre ma saison d'hiver et d'été. Et ouais, c'est bien de faire un petit check. Voilà. Mais je pense que c'est bien d'avoir les deux, en fait, et de quand on va faire une séance, en fait, d'ostéo, il va nous remettre un petit peu en place, c'est aussi en fait détendre en fait les muscles pour pas que ça revienne tout de suite non plus. Donc c'est bien d'avoir, je pense que c'est complémentaire. Ouais.
Oui, totalement. Niveau entraînement, je disais, tu vas courir donc dans moins d'un mois maintenant, donc en Argentine. C'est quoi un petit peu pour toi la préparation? Comment elle se déroule, cette préparation pour un ultra trail comme ça?
Alors moi, c'est assez simple. Je regarde mon Excel et je regarde ce que le coach m'a mis. Non, donc j'ai un coach depuis 2015, Philippe Propage. C'est plutôt moi qui fixe ce que je veux faire dans l'année. Et puis après, il se débrouille.
C'est son boulot.
Voilà, c'est son boulot. Et puis il le fait pas mal. Donc, il met les entraînements et puis la charge. Disons qu'il y a je prends quelques libertés un petit peu, et puis par rapport aussi ce que je vis tous les jours, hein, que ce soit au niveau du travail, des stages que j'ai, enfin voilà, des différentes contraintes, on va dire. Mais voilà, c'est de la préparation, c'est quand même lui qui donne les grandes lignes, et j'essaye de le suivre du mieux que je peux. Maintenant, c'est toujours pareil, vu que je pars un peu plus dans l'ultra. Je pense que j'aime bien aussi aller chercher un petit peu, en fait, ce qui peut me convenir, et en essayant aussi. Donc, j'ai eu des préparations qui ont été différentes, par exemple, pour l'année dernière, pour l'UTMB, que pour la TDS il y a deux ans, et qui étaient déjà différentes de ce que j'avais pu faire jusqu'à maintenant. Notamment sur la TDS, il y a deux ans, j'avais fait une seule semaine vraiment chargée. Cette année, j'ai fait trois semaines moins chargées, mais voilà, plus importantes. Quand je parle chargée, sur la TDS, c'était j'ai fait plus de 300 bornes avec plus de 20 000 de dénivelé dans la semaine. Et sur une moins chargée, ça restait quand même vers les 200 km et vers 12 000, à peu près en moyenne de dénivelé. Donc voilà, c'est un peu aussi un petit peu du tâton, savoir en fait qu'est-ce que ça m'a amené, en fait, d'avoir fait une semaine ou d'avoir fait trois, au niveau, en fait, des sensations, mais aussi au niveau mental. Ça, j'en ai aussi parlé avec mon coach. Quand j'ai fait trois semaines l'année dernière, assez chargées, avec des heures d'entraînement assez conséquentes, ce que ça m'a amené, c'est sur la course, en fait, en dehors de la préparation, j'estime que ça m'a quand même amené quelque chose, c'est d'avoir, en fait, un ressenti au niveau de la course qui était... après 10 heures, j'ai l'impression d'avoir commencé, quoi. Enfin, de pas avoir passé autant, déjà 10 heures de course, quoi. Donc, c'est un petit peu, cette relativité du temps, on va dire, par rapport à l'entraînement, quand on fait que 15 heures ou 20 heures par semaine, ou quand on en fait 35-40, on a une relativité différente, quoi. Donc, ça mène des choses, pas forcément que au niveau physique, mais aussi un petit peu mental. Maintenant, c'est toujours la balance entre savoir n'en faire trop, d'en faire pas assez, de se blesser. Enfin, il y a plein de paramètres à prendre en compte, quoi.
Et justement, en moyenne, tu me parlais là de 300 avec 20 000 de D+.
C'est pas de la moyenne, c'est du pic.
Non, le pic, mais justement, en moyenne, tu es à peu près à combien, que ce soit en distance, D+, et en heure de course?
C'est hyper variable, c'est pour ça que c'est dur de te donner une moyenne en fait, parce que bah, l'année dernière, peut-être que j'ai quand même fait plus en préparation de la Western, j'ai fait plus de distance, moins de dénivelé. Après, entre la Western et UTMB, bah, voilà, j'ai fait plus de dénivelé, donc c'est difficile, mais je reste à peu près, en principe, en moyenne, vers entre 12 et 15 heures par semaine, et le dénivelé, ouais, c'est vraiment très variable, hein, mais... on va dire entre 80 et 120 km. Et moi, le dénivelé, j'ai du mal à quantifier, mais on va dire dans les 5000 mètres. Quoi.
D'accord. Et donc, tu parlais que tu as ton travail à côté. Comment tu arrives à gérer ça, justement, de faire tout cet entraînement, toutes ces heures d'entraînement, et à côté encore d'avoir ton travail à côté?
Eh ben, je le gère pas, c'est mon coach qui le gère. non, mais c'est quelque chose qu'on donne au coach, en fait, c'est disponibilité aussi. Et il doit tenir compte ben, des contraintes professionnelles, des contraintes familiales, et établir un plan qui soit réaliste. Quand je travaille, s'il met un entraînement de 4 heures, voilà, ça va être compliqué. Moi, je veux pas, et en tout cas, je l'ai pas fait, me lever à 4 heures du matin pour aller courir. Donc, là-dessus, en fait, Philippe était complètement en phase, et voilà, j'avais des entraînements d'une heure, une heure et demie, voire deux en semaine, mais au maximum, et puis pas tous les jours, alors que bah, le week-end, c'était un petit peu plus chargé. Maintenant, ça fait... jusqu'à il y a 2 ans, j'étais à 100%, donc travaillant en Suisse, c'était 41 heures par semaine. Maintenant, je suis à 60% depuis ouais, un peu plus d'un an et demi, et ce qui est quand même assez confortable maintenant.
Rien que pour la récupération, ça change un petit peu aussi.
Oui, c'est pour la récupération, et puis ouais, ça permet de répartir un petit peu plus la charge en fait sur plusieurs jours, et puis voilà, de faire aussi autre chose et de changer un petit peu les idées, quoi. Sachant que, comme je te disais, moi j'ai jamais vraiment rogné sur mes nuits de sommeil pour faire les entraînements, et je pense que cette façon-là peut passer un petit peu, quelques temps, mais voilà, ne peut pas être pérenne en fait, on peut pas faire ça toute sa vie, donc voilà, c'est toujours quand on travaille, on a une famille, on a une vie quand même sociale aussi à côté, bah, c'est faire des compromis entre tout ça, quoi.
Et donc là, c'est aussi plus facile, et un mode de vie du coup ouais, moins chargé que avant.
Oui, c'est plus facile aussi parce que bah, mes filles, elles ont 20 et 23. Donc, elles n'ont plus les mêmes besoins, disons.
Qu'il y a quelques années.
Donc, ouais, c'est aussi plus facile par rapport à ça. Ouais.
Et pour revenir un peu sur le côté entraînement, au niveau entraînement pour justement de l'ultra, c'est quoi un peu toi, maintenant la séance que tu vas en général préférer, que ton coach va te donner, et tu te dis... Ah, celle-là, je l'aime bien, j'ai hâte de la faire, si tu en as une.
Non, si c'est vraiment des séances, il n'y en a aucune que j'ai hâte de faire. Parce que souvent, c'est quand même dur. Voilà, si on peut appeler ça une séance, c'est plutôt les sorties longues et aller se balader que vraiment une séance. Quoi. Une séance d'entraînement, c'est rare où je me dis ah, « super, j'ai une séance où je vais cracher mes poumons et puis je vais avoir mal au can ». Donc, c'est vrai qu'il faut aimer un petit peu souffrir parfois, mais ouais, j'aime bien aussi être cool, hein, et puis aller me balader. Et, voilà, même si au cours de la balade, il peut y avoir des moments un petit peu plus intenses, mais voilà, c'est plutôt ces sorties-là qui sont cool, et encore plus cool quand elles sont partagées voilà, avec Céline, parce que j'y vais aussi avec Céline, ou avec des collègues, quoi, avec des copains, quoi.
Et justement, en général, tu fais souvent ces entraînements seuls ou tu es quasiment toujours accompagné?
Alors, les entraînements pour la semaine, c'est quasiment toujours seul. J'ai quelquefois des collègues de boulot avec qui j'y vais en fonction de voilà, différentes réunions et de disponibilité. Mais la plupart du temps, en fait, c'est seul. Et le week-end, c'est un peu plus souvent accompagné, ouais.
Ça fait plaisir, justement, je pense, d'être un peu accompagné.
Ça fait plaisir. Après, ma femme, elle ne m'accompagne pas toujours, parce que quand moi, c'est une sortie cool, pour elle, c'est une sortie un peu moins cool. Donc, mais ouais, ça permet de faire des entraînements un petit peu différents, à des rythmes différents. Et j'ai aussi des collègues, enfin, mon beau-frère et puis un copain avec qui je m'entraîne pas mal le week-end, où bah, des fois c'est plutôt assez rapide quand même comme sortie. Donc.
et est-ce que tu fais aussi des choses plus courtes, plus rapides, pas forcément avec du dénivelé, plutôt sur le plat, ou même est-ce que tu fais des séances des fois sur piste ou vraiment pas du tout?
Alors piste, c'est vraiment hyper rare. J'ai dû en faire 2 ou 3 quand même dans ma vie, donc c'est arrivé. Mais non, des séances rapides, oui, plus pendant la saison d'hiver. Bon, là, j'ai été blessé un petit peu, mais pendant la saison d'hiver, quand j'optimise un petit peu aussi le temps de trajet au travail où j'y vais à pied, et puis voilà, on fait la séance, on essaye de travailler un petit peu plus la vitesse. J'ai peut-être avec cette blessure, j'ai peut-être un petit peu moins fait de cette année. Mais oui, il y a forcément un petit peu de travail de vitesse, mais ça dépend aussi des courses qu'on prépare. Donc j'en ai fait beaucoup plus quand je préparais la Western. Je pense en faire quand même moins cette année, même s'il faut en garder, parce que voilà, sur des courses, il y a quand même souvent des parties où on a besoin de ces vitesses, enfin, vitesse, c'est un grand mot, parce qu'au final, on court pas très vite sur un ultra, même sur le plat, mais voilà, d'avoir la possibilité, en fait, d'avoir un certain rythme sur les parties de relance plus roulantes, et notamment sur l'UTMB, il y en a quand même pas mal, ouais.
Et maintenant, sur par exemple une séance de côte, alors moi qui viens plutôt de la route et de la piste, les séances de côte en général c'est vraiment du très court. Toi, ça va ressembler à quoi une séance de côte par exemple? J'imagine c'est plusieurs minutes de montée ou comment ça?
Bah, c'est pareil en fait. Là, il y a plusieurs séances de côte différentes en fait et qui vont être sur des séances de côte qui vont se rapprocher plus d'un seuil où on va être sur 10 minutes voire 20 minutes en fait en côte. Mais j'ai aussi des séances qui sont beaucoup plus courtes avec des temps de course qui sont jusqu'à 30 secondes, mais ça peut être voilà, une pyramide, 30, 45, une minute, voire une, deux, trois, enfin voilà, donc ce genre de séance, donc ça va, c'est très variable quoi, donc, et c'est pas tout à fait en fait, c'est pas les mêmes effets recherchés en fonction de la durée de la séance, forcément, mais je pense que c'est comme sur le plat. Hein.
Totalement. J'imagine que les côtes un peu plus courtes, t'apprécies peut-être un peu moins que le plus long.
Bah, c'est plus violent, mais bon, d'un autre côté, ça dure moins longtemps. C'est vrai que sur une séance de côte qui est plutôt longue, on se retrouve pratiquement sur une allure course au final. Quoi. Donc voilà. On est un peu moins dans la souffrance, même si à la fin. Le but, c'est à la fin, c'est qu'on ne soit pas complètement en essence, sinon on n'est pas vraiment dans l'objectif de la séance. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que toutes les séances, de toute façon, sont dures. Quoi.
et maintenant, on va plus passer sur la préparation, les derniers jours avant un ultra, par exemple. Comment elle va se passer la semaine avant un ultra? Tu lèves énormément le pied, tu continues, tu fais, j'imagine, plus vraiment trop de séances, plus des footings, ou comment ça se passe?
Ouais, la semaine avant, normalement, oui, c'est quand même bien diminué, même celle d'avant, même 2 semaines avant, où on diminue quand même pas mal la charge. Ça, c'est aussi quelque chose, je sais pas, que je voudrais aussi expérimenter. Est-ce que c'est bien de la lever comme ça? C'est bien pour la fraîcheur? Il y a eu des ressentis en fait sur les courses, même encore l'année dernière en fait, descendre sur Saint-Gervais où voilà, on fait une descente, on a fait une préparation spécifique en fait pour 160 km et première descente, ben voilà, on a mal aux jambes. Alors on se dit ben pourquoi? Parce que quand je fais mes sorties longues, première descente, j'ai pas mal aux jambes. Donc il y a pas mal de choses. Je me dis, est-ce que c'est la bonne solution en fait d'arrêter en fait, ou enfin de vraiment limiter autant? On passe sur peut-être même pas 50% de charge, je pense, 2 semaines avant, et puis la semaine avant la course, et je sais pas, moi ça va être 2-3 footings quoi, donc très peu. Il peut encore y avoir un peu de dénivelé, mais on
limite au maximum en tout
ouais,
cas.
Ouais, limite un peu. Mais... Alors, je ne sais pas si c'est la bonne solution.
Donc, c'est quelque chose éventuellement que tu pourrais changer.
Ouais, continuer à mettre un petit peu de charge, à mettre un petit peu d'intensité aussi dans les descentes. Est-ce que je ne vais pas le payer dans la course? Donc, c'est quelque chose, je n'ai pas encore eu le courage, en fait, on va dire, d'expérimenter, d'en parler. Je n'en ai pas forcément. Enfin, si, j'ai déjà parlé à Philippe, en fait, des sensations que j'ai eues sur cette première descente. Et. C'est marrant que j'étais pas le seul athlète à avoir eu ça. Je me souviens une année, Aurélien avait eu ça aussi sur l'UTMB, là, quand c'était en quoi, 2020 et, 21. Il avait eu les mêmes sensations sur la première descente. Donc,
en tout cas, t'es pas le seul.
Ouais, je suis pas le seul, mais voilà.
Et justement, niveau alimentation, est-ce que tu mets des choses en place ou au contraire, avec tout ce que tu enquilles comme kilomètre, t'arrives quand même à bien te faire plaisir aussi?
Ouais, j'essaie de garder un petit peu de plaisir quand même, parce que justement, il y a déjà des contraintes ailleurs. Mmh. Et puis, l'alimentation, ça reste quand même aussi un plaisir. Maintenant, j'essaie quand même d'être un petit peu sérieux, en tout cas à l'approche des échéances, c'est peut-être un petit peu... peut-être un petit peu trop tard aussi des fois. Alors des fois ça se passe bien, des fois ça se passe moins bien. Là récemment j'ai changé de partenaire nutrition où je suis passé chez NAC et la course du week-end dernier c'était aussi en fait dans l'objectif de tester un protocole de nutrition, tester d'autres choses. Là je sais pas si t'as vu, j'ai des capteurs qui sont prêts pour aussi aller dans une démarche un peu plus scientifique pour voir en fait comment se comportent en fait les prises qu'on fait, mais c'est plus pendant la course en fait. Donc ça je suis intéressé, et puis c'est ce qui me motive aussi à avoir changé de partenaire et puis d'aller un petit peu dans les recherches aussi d'expérimentation. Et se dire, si je prends ce produit, combien de temps ça me fait effet, ça fait effet sur moi, c'est peut-être pas pareil, je suis sur une autre personne. On va explorer un petit peu ça. Et avant la course, on va dire non, pas forcément très très sérieux. Et pendant la course, j'essaye de tenir à ce que j'ai l'habitude, au protocole que j'ai pu expérimenter. Et voilà, même si ça n'empêche pas que... plus la course elle avance, plus c'est un petit peu à l'envie. S'il y a quelque chose qui fait vraiment envie sur un ravito ou que mon assistance a prévu, parce qu'elle sait aussi des fois ce qui peut me faire plaisir, qui n'est pas forcément hyper diététique, mais qui peut aussi remonter un petit peu le moral. C'est quelque chose qui va peut-être être un peu plus permissif sur une fin de course, quoi.
Au final, tu as encore de belles années devant toi pour tester différentes choses.
Ouais, faire ça.
Est-ce que tu aurais peut-être un conseil pour maintenant un coureur qui veut se mettre au trail ou qui s'est déjà mis au trail et qui veut se mettre à de l'ultra? Est-ce que tu auras un petit conseil à lui donner?
Oui, le conseil que je donne toujours, en fait, faites exactement ce que j'ai pas fait. Donc j'ai commencé en fait le trail par l'ultra parce que c'est le défi qui m'intéressait, de savoir si j'étais capable de faire une course aussi longue. Quand on s'alignait sur l'UTMB, non, j'étais pas capable. Donc je me suis pas mal cassé les dents, je me suis pas forcément beaucoup blessé ou pas grave en tout cas. C'est ce que tout le monde recommande de pas faire, c'est d'y aller progressivement et de monter un petit peu les distances. Après m'être cassé plusieurs fois les dents, j'ai fait comme tout le monde, j'ai redescendu les distances et je suis remonté après un peu plus tard sur les distances. Et je pense qu'il y a une réelle adaptation en fait du corps à l'endurance, à l'effort en fait plus long, quoi. Donc je pense que ça prend pas, c'est pas une année pour passer en fait vraiment les distances, quoi.
Et donc maintenant, pour quelqu'un qui veut se mettre au trail, idéalement, il a l'habitude de faire de la route. Idéalement, en termes de séance, faire des choses avec forcément plus de dénivelé, ça va être quoi pour quelqu'un qui se met au trail?
Alors, quand on vient de la route, forcément, je pense que si on vient de la route, tu parles de la course à pied quand même, pas du vélo, même si on peut très bien venir aussi de la route en vélo. Ce qui sera le plus compliqué, je pense, sans aucun doute, ça sera la descente.
Musculairement.
C'est musculairement et pas que, en fait, c'est aussi l'engagement qu'on peut avoir en descente. Donc forcément, musculairement, il faut pouvoir les encaisser. Souvent, alors ça dépend de la distance qu'on choisit, mais souvent, il y en a plus qu'une. Donc faut pouvoir après repartir, donc les encaisser, mais donc être prêt physiquement, mais c'est aussi un engagement à avoir en fait, et une lecture de terrain, une confiance en fait qu'on peut aussi perdre en fonction des blessures qu'on peut avoir, mais quand on débute c'est surtout ça qui peut manquer et qui dépend aussi un petit peu de chacun en fait, des risques en fait qu'on peut être prêt à prendre dans la descente et voilà, donc on voit sur ça, en fait, les personnes qui viennent dans le trail, on voit un petit peu, par exemple, on voit des triathlètes qui viennent dessus, en fait, qui ont une super caisse, en montée souvent ça va bien, et descente ça pêche un petit peu. À contrario, il y a des coureurs de VTT qui faisaient du VTT avant et là qui vont tout de suite performer en descente parce que ils ont un engagement déjà en fait à la base, voilà, et une lecture de terrain aussi plus rapide. Donc ouais, c'est des choses, c'est ce qui va être à travailler en tout cas, et sûrement plus la descente encore que la montée, ouais.
Bah merci pour les conseils. Merci à toi. Donc le podcast touche à sa fin. Merci pour toutes ces réponses. Tu m'as même donné envie de m'y mettre.
C'est vrai. Ok.
Est-ce que tu aurais peut-être un dernier petit mot de la fin, un dernier petit conseil ou quelque chose à donner à nos auditeurs ?
Oh non, pas spécialement.
Qui se fasse
en tout
plaisir.
Cas, bah ouais, faites-vous plaisir parce que c'est vrai que je vais pas renier la route, mais quand même le trail, ça nous permet d'évoluer dans des environnements qui sont assez magiques. Donc voilà, n'hésitez pas à venir fouler les sentiers. Et puis les sentiers, c'est de toutes sortes, il y en a pour tous les goûts. Il y a des techniques, il y a du pas technique. Tout ça, du moment que ça s'appelle trail. Après, chacun trouvera sa voie et ce qui lui convient le mieux dans le trail, quoi.
Bah, le message est passé, merci à toi. Je te souhaite donc évidemment une très belle saison, une belle course en Argentine. On se reverra évidemment sur les prochaines courses, dont l'UTMB aussi. Merci à Compressport qui a donc sponsorisé ce podcast. Nous, on se donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner à toutes nos plateformes d'écoute pour ne manquer aucun de nos prochains podcasts. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou via nos réseaux sociaux. Et donc, on se donne rendez-vous très vite. Merci encore à toi, Ludovic, et puis à bientôt.
Merci à toi, et à bientôt sur les trails, alors.
Merci. Allez, ciao.
Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Callroom, podcast imaginé et créé par Onyx. Ne loupez rien de l'actualité de la course à pied sur nos réseaux sociaux et retrouvez l'intégralité des podcasts sur nos plateformes d'écoute.